Chapitre 26. Claude Monet. Tout fuit, tout passe. Dans le fond de la classe des CM2 de Madame Adji, trônait dorénavant la quinzaine de maquettes en cours d'élaboration qui seraient présentées en fin d'année. Celle en carton ondulé de Mona et de Lily, qui modélisait la future chambre de cette dernière, était dominée par une gigantesque panière pour chat. De manière générale, les enfants avaient construit des bâtiments improbables, des monuments imaginaires, et se vautraient parfois dans des ratages délicieux. Ainsi, un binôme s'était fixé de miniaturiser le Sacré-Cœur, et pour l'heure, tout le monde s'accordait à dire que cela relevait plutôt de la grosse meringue très crasseuse. C'est cependant le projet de Jade et Diego qui, contre toute attente, s'avéra le plus stupéfiant. Car le petit Diego, sans cesse tourné en ridicule, toujours en retard sur ses camarades, avait réussi à créer une lune digne du cinéma de Méliès. Pendue par un fil invisible au plafond d'une boîte, une grosse sphère en papier mâché et peinte à l'aérosol dans des tonalités d'argent tournait lentement sur elle-même grâce à un petit moteur. De discrètes ampoules permettaient d'observer l'illusion de cratères, de ravines et de montagnes. Jade, naguère exaspérée d'avoir été tirée au sort avec le garçon, ne boudait désormais plus son plaisir de lui être associée. L'enfance a le délicieux secret de ses brusques revirements, oublieux des rancunes et du passé. Et maintenant que l'ouvrage était presque terminé, elle voulait se l'approprier en y greffant des idées de dernière minute. Elle parlait notamment de coller à la surface une fusée rouge et blanc comme celle de Tintin. Diego, qui avait jusque-là été l'unique artisan de la maquette, ne pipait mot. Il opinait servilement du chef, mais sans consentir au fond de lui-même. Et cela se voyait. Il savait bien que la beauté de cette lune tenait à son dépouillement. Mêlée au débat, Mona s'était d'abord sentie spontanément solidaire de Jade. Mais elle fit finalement l'effort ingrat de prendre parti contre son amie. C'était dans l'intérêt de Diego qu'elle aimait bien, et de cette création qu'elle trouvait incroyable. À Jade, qui se sentait quelque peu trahie, elle expliqua pourquoi il n'en fallait pas davantage sous peine de gâcher un travail qui était déjà génial. Diego jubilait et, pour la première fois de sa vie, se sentit vraiment aimé d'une camarade. Il voulut poser une bise baveuse sur la joue de Mona, mais elle le rabroua sans méchanceté en lui demandant de ne pas trop en faire. Hélène, la conservatrice, avait donné rendez-vous à Mona et son grand-père dans une rue adjacente au musée d'Orsay. Henri, après 1000 remerciements d'usage, remarqua ses yeux d'une intelligence vive et frondeuse, son grand nez busqué et l'exigence aristocratique de son phrasé. Tout son être dégageait une profonde autorité naturelle. Elle les conduisit à travers une succession d'accès réservés, de corridors austères et d'ascenseurs métalliques, sous l'œil de multiples caméras de surveillance. Les rares personnes qu'elle croisait s'arrêtaient pour la saluer avec déférence et n'osaient pas demander ce qui motivait la présence d'un vieux monsieur et d'une petite fille à ses côtés dans ces lieux ultra protégés. Enfin, une fois franchis deux immenses et lourdes portes, ils arrivèrent dans un espace qui paraissait sans limite. Là s'enchaînaient des dizaines de grilles coulissantes remplies de tableaux, des mezzanines peuplées d'objets remarquables. On voyait aussi des meubles à plans chargés de dessins de maîtres, et puis d'innombrables caisses où reposaient des œuvres en partance pour quelque exposition à l'étranger ou fraîchement revenues d'un prêt. Par une fenêtre, Hélène montra à Mona et Henri une jeune femme s'attelant à restaurer la patine d'un bronze d'Auguste Rodin. Que ces coulisses étaient belles, au-delà de tout ce qu'aurait pu imaginer l'enfant. Elle découvrait un véritable musée sous le musée, sans visiteurs, sans aucun bruit, stupéfiant. Mais Hélène avait fait mieux encore. Puisque Mona et Henri venaient voir la gare Saint-Lazare de Monet, la dite toile se trouvait installée sur un chevalet pliant et portatif du XIXe siècle, monté sur trois pieds. C'était un outil spécialement conçu pour la peinture en plein air. À compter des années 1840, grâce à la démocratisation du tube en étain qui permettait d'emporter des couleurs hors de l'atelier, cette pratique, dite « sur le motif », ne cessa de croître. Les impressionnistes en étaient des adeptes, non seulement dans les campagnes, de la forêt de Fontainebleau à la Côte d'Azur, mais aussi dans les villes. Ce fut d'ailleurs à même un quai, devant des voyageurs éberlués, que Claude Monet signa en 1877 l'œuvre que regardaient maintenant ensemble, dans les méandres des réserves du musée d'Orsay, Hélène, Henri et Mona. Partout au sol s'étalait un réseau légèrement sinueux de voies ferrées qui cheminaient vers la ligne d'horizon. Celle-ci était obstruée par une forte densité citadine, à savoir un viaduc d'acier et, plus loin encore, des immeubles caressés par le soleil. On voyait en particulier, à gauche de l'œuvre, un gros bâtiment en pierre de taille, dont le dernier étage, le sixième manifestement, était coiffé de plaques de zinc. Une grande verrière dominait le premier plan, surplombait le point de vue sur ce paysage urbain et dessinait un triangle isocèle dont le sommet formait un angle d'environ 120 degrés. La symétrie de cette vaste marquise de gare était renforcée par celle des deux pieds fins et de la grille centrale qui en soutenait l'armature d'acier. Le tout finissait par suggérer une composition en hexagone quasi régulier et dont la pointe inférieure eût coïncidé avec la position du peintre figurant la scène. Sur les lignes de rails, il y avait trois trains, de plus en plus rejetés dans la profondeur au fur et à mesure qu'on allait de la gauche vers la droite du tableau. Leur écrasement dans la perspective cachait la succession des wagons. Tandis que le train tout à gauche était de dos, statique, il fumait sur les autres lignes deux locomotives à l'approche. Celle qui jouxtait la médiane verticale constituait une sorte de barycentre. C'était en tout cas l'engin le plus visible, le plus présent, bien que sommairement esquissé en quelques coups de peinture noire dénués de détails. Le même traitement fragmenté, atomisé, servait à représenter une figure humaine dressée à même la voie à droite de la composition et, dans son dos, les formes incertaines de voyageurs, de cheminots ou de badauds. Aucune identité sociale n'était discernable. Enfin, parmi les innombrables jeux d'ombre, de fluctuations, de tremblements entretenus par un pinceau multipliant les sursauts, les taches, les cannelures et les empattements, il y avait des masses de vapeur émanant des locomotives, laiteuses pour la plupart, mais celle du centre était bleue et la lumière, sous l'effet des gouttelettes d'humidité, s'en trouvait subtilement réfractée. C'était à la fois austère et magique. Mona examina le tableau très longtemps. Avec son grand-père et surtout une conservatrice à ses côtés, elle avait le sentiment de jouer à la spécialiste parmi des trésors. Car en étudiant les gammes chromatiques, un tableau du Louvre lui revint à l'esprit et, avec ses grands yeux écarquillés, timides, elle osa une remarque. Sur les murs clairs des immeubles d'Adé, c'est le jaune de chrome, comme Turner dit, mais avec un peu plus de blanc. C'était si prodigieux que si la conservatrice n'avait pas surpris plusieurs fois la petite fille en train de parler avec son grand-père, elle aurait cru à une singerie destinée à l'épater. « Bien observé, » abonda Henri. « Monet montre que tout change et fluctue sans cesse. L'illusion, c'est la fixité. La vérité, c'est que tout n'est qu'une succession d'impressions qui s'altèrent et qui alternent perpétuellement. Le simple petit mouvement de nos yeux, le dodelinement de notre tête, les flux de l'air, les incessantes modulations de la lumière modifient les couleurs. Tiens, imaginons que Monet soit devant son chevalet, là. Et il te demande la couleur des murs de la réserve autour de toi, Mona. Que répondrais-tu ? Mona détourna la tête du tableau pour considérer la sinistre paroi et haussa les épaules. Bah, monsieur Monet, elle est grise. Exact. Sauf qu'à la fixer en continu, tu verras qu'elle n'est pas seulement grise, mais traversée de mille nuances. Elle tourne à une blanche clarté ou au contraire au noir. Les reflets jaunes d'un spot de lumière la frappent, mais se dissipent si l'on fait juste un petit pas de côté. Ce gris porte en lui une infinité de déclinaisons. De même, si nous demandions à quelqu'un de dire de quelle couleur est une fumée, il te répondrait sûrement qu'elle est grise également. Mais comment Monet la représente-t-il ? En bleu ? Et plus exactement encore, du bleu de cobalt et du blanc de céruse. Monet fait mieux encore dans ce tableau. Il embellit également les fluctuations du monde à une grande échelle. Il montre les mutations immenses dues à la modernité, celles des gares, des trains, des vapeurs. À ce sujet, à quoi te ferait penser, en haut du tableau, cette verrière en triangle?
Je vais dire une bêtise, Dadé, mais c'est comme la pyramide devant le Louvre.
Ce n'est pas du tout une bêtise, Mona, si ce n'est que celle du Louvre est récente et elle-même inspirée par les grandes pyramides d'Égypte. Comprends donc, quoiqu'issue d'un lointain passé, les pyramides représentent un sommet de modernité. Et précisément, cette gare ainsi représentée en est comme la réminiscence, la renaissance même. Mona était troublée. Un seul mot résonnait dans son esprit, celui de modernité. Elle en demanda le sens précis. Henri lui proposa que cette expression soit pour l'heure une petite graine. Sans avoir besoin de définition, elle germerait au fil de leur discussion. La modernité dans ce tableau, c'est Paris. Paris doit beaucoup à un homme nommé Haussmann qui l'a complètement oxygéné et dénoué. Il y a ici plusieurs symboles de la révolution industrielle qui en a permis les métamorphoses. À l'arrière-plan, sur la gauche, s'élève un immeuble en pierre de taille comme tu en vois tant aujourd'hui. À l'époque, c'était un très grand bouleversement, un nouveau standard qui marquait la rénovation de la capitale. Quant au verre de la halle couvrante, c'est un matériau qu'on commence à véritablement maîtriser à l'époque et dont l'artiste aime la transparence et la légèreté. Enfin, Monet exalte la puissance de la vapeur avec ses deux locomotives. Non seulement parce qu'il en affectionne les bouffées, mais aussi parce qu'il s'agit de ce qui actionne les trains et hâte donc le changement du monde. Cette peinture est l'icône de nombreuses mutations. Et son exécution, avec des coups de pinceau rapides et rythmés, se conforme à cette accélération de la vie et de la société. On pourrait dire que Monet peint d'une manière très moderne la modernité galopante de son temps. Mona fit sa tête rigolarde qui signifiait que la petite graine commençait à germer. Henri reprit, tout près du chevalet, comme si Monet était assis devant. Comme il bénéficiait d'une autorisation pour peindre sur les quais, Monet en profita pour signer cette version de cet intérieur de la gare. Il demandait aux cheminots de faire fumer les locomotives, de les faire avancer, reculer, pour multiplier ses points de vue. Le peintre se transformait donc en metteur en scène, mais avec des trains pour acteurs. Monet aimait avoir une succession d'approches d'un même sujet, afin de rendre au mieux des variations, celles de la lumière, des couleurs, des atmosphères, celles du ciel, de l'air, des ombres portées, des volumes qui se découpent et se troublent. Nombreux sont les historiens de l'art qui pensent que Monet inventa la série. Entre 1892 et 1894, il signera notamment 40 versions de la façade de la cathédrale de Rouen, devant laquelle il déclara « Tout change, quoi que pierre ». Ici, c'est pareil. La peinture, censément un art de l'espace, se fait expression du temps qui file. Ce que nous dit au fond ce tableau, c'est cette phrase du penseur de l'Antiquité, Héraclite d'Éphèse. « Tout fuit, tout passe ». On dit « pantareil » en grec ancien. « Pantareil, » répéta Mona. « Mais le train, Dadé, est-ce qu'au moins il le prenait ?»« Oh oui !» La gare Saint-Lazare, à partir de 1850, fut très appréciée de tous les artistes. Ils avaient là un sésame vers une nature qui leur servait d'atelier à ciel ouvert à portée de main. La gare Saint-Lazare, c'était un billet vers la Normandie et toutes ses campagnes. Ainsi, ce tableau est à la fois un temple de la modernité, mais c'est aussi ce que Baudelaire appelle une invitation au voyage, une lucarne pour le rêve. Hélène intervint de sa voix ciselée comme un diamant. C'était la première fois que quelqu'un se mêlait au dialogue des deux complices. Elle expliqua sobrement que Monet avait sans cesse hésité entre Paris et la Normandie. Elle décrivit ses débuts comme caricaturiste au Havre, puis sa rencontre avec Eugène Boudin qui l'initia aux phénomènes atmosphériques. Le ton d'Hélène se fit plus mélancolique quand elle évoqua le trajet esthétique de Monet. Au fur et à mesure que les années passaient, raconta-t-elle, cet artiste, qui saisissait les traits d'un faciès mieux que quiconque, choisit de se dégager des visages, des silhouettes humaines. La conservatrice pointa la partie droite du tableau. « Regarde, Mona, combien déjà, dans la façon dont les personnages sont dilués, ce basculement se vérifie. » Mona le voyait et se sentait grandir. C'était follement agréable. Et d'ailleurs, ajouta Henri qui ne voulait pas perdre la main, Monet finira par quitter définitivement la capitale pour s'installer en Normandie, dans sa belle maison de Giverny, dotée d'un somptueux jardin. C'est là qu'il peindra, à partir de 1899 jusqu'à la fin de ses jours, de magnifiques nymphéas qu'il cultivait lui-même. « Oui, reprit Hélène, jusqu'au terme de ses jours, alors qu'il était presque aveugle, Monet peignit des fleurs, dans lesquelles palpitait l'essence de la vie, comme une déclaration d'amour et de paix à l'univers. » Un long silence, dans lequel flottait le tabou de la menace de cécité qui pesait sur Mona, suivit les très beaux mots de la conservatrice. Il était comblé par les lointains battements cardiaques de la peinture, et ces battements ne devaient pas tant aux représentations de machines en action qu'aux convulsions propres à la touche efflorescente de Claude Monet. « Pardon ?» dit soudain Mona en feignant délicieusement d'être embarrassée. « Mais il me manque quand même une réponse dans tout ça. Pourquoi est-ce qu'on dit que Monet est un impressionniste ?»«
C'est vrai, » reconnut Henri. « Eh bien, terminons par le commencement. Cette jolie appellation était à l'origine une injure. En 1874, un critique d'art du nom de Louis Leroy, devant une toile de Monet intitulée « Impression soleil levant », avait ironisé en se disant « impressionné », alors qu'au fond de lui-même, il jugeait déplorable ces flous, cette touche suggestive mais inaboutie. Il qualifia l'ensemble des artistes qui entouraient Monet et peignaient dans son style, Renoir, Pissarro, Sisley ou Berthe Morisot, d'impressionnistes. Que fallait-il faire de l'injure ? S'y résigner, la contester, Monet eut une idée bien plus intelligente. Il la récupéra comme une bannière. Il retourna l'insulte en fierté. Et aujourd'hui, l'impressionnisme est devenu le courant le plus célèbre et le plus aimé sur la planète entière. Henri se tut et laissa Mona remercier Hélène du cadeau immense qu'elle lui avait offert. Elle aurait certainement serré la conservatrice dans ses bras si son désir maladroit de paraître sérieuse, précocement adulte, ne l'en avait pas empêché. Mais tandis que le trio hâtait le pas vers la sortie, la fillette s'alarma soudain. Elle avait manqué l'occasion unique de tourner autour de l'œuvre qui, en la circonstance, se trouvait posée sur un chevalet au lieu d'être plaquée contre le mur. On rebroussa aussitôt chemin. Elle put se faufiler dans le dos de cette gare Saint-Lazare et plongée de l'autre côté du miroir. Là, elle vit une toile vieillie, marronasse, et une armature en bois. Tiens, comme tout cela d'un coup lui sembla dérisoire, bricolé, fragile. Mona comprit que c'était aussi cela le sens caché d'une peinture. C'était aussi cela qu'il fallait deviner derrière les images. Il ne s'y nichait pas seulement des lectures complexes, des interprétations savantes, des décryptages audacieux et des hypothèses par centaines. Non, ce qui se dérobait et qu'il convenait de garder à l'esprit sous les couches de pigments, c'était la trivialité de ces canevas sans âme montés sur châssis. C'était la désarmante simplicité de ces objets sur lesquels se fixeraient peut-être d'immortels moments de l'humanité même. Cette fois, elle voulait bien partir.